On adore vraiment ce petit spot et j'ai oublié quand même de présenter à la technique Olivier et vraiment bravo pour cet enchaînement merveilleux.
Voilà, donc la suite, après Nord-Sud, spot de prévention, on va maintenant parler traitement recherche avec Fabrice et plus particulièrement de la conférence de Rio, la conférence de l'IAS. Alors le nom exact est sur la pathogénèse et les traitements de l'infection à VIH. Cette conférence est déroulée du 24 au 27 juillet dernier à Rio de Janeiro, je ne sais plus si je l'ai dit, et donc deux militants d'ACT UP étaient présents sur place, dont Fabrice et la deuxième personne était Hugues. Donc ce soir tu es là Fabrice pour nous en parler un petit peu. L'idée donc nous expliquer en quoi consiste cette conférence, et en l'occurrence l'IAS, qu'est-ce que ça veut dire. Et je crois que tu vas nous parler également, j'en suis même sûr, de la surinfection, sujet dont on avait déjà abordé en août, l'émission du mois d'août. Voilà, Fabrice, je te laisse la parole.
Petite anecdote, on a failli ne jamais revenir de Rio, puisque les deux premiers jours de notre séjour là-bas, comme deux gourdasses, on s'est fait attaquer deux fois. Et la deuxième fois, malheureusement, ça a été plus sévère que la première. Et notre camarade Hugues... on a eu des séquelles qui durent aujourd'hui toujours, donc c'était pas très drôle. Cela dit, la conférence était évidemment très intéressante et le paysage n'était pas non plus désagréable. Alors, l'IAS, c'est quoi? C'est l'International AIDS Society. C'est une société savante.
Avec l'accent.
En essayant d'avoir l'accent. C'est une société savante qui organise habituellement et traditionnellement la conférence mondiale qui a lieu tous les deux ans sur le sida. La conférence mondiale, c'est la grande conférence qui réunit des chercheurs, des associations et les grandes institutions. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était à propos de Bangkok l'année dernière, en juillet. Et vous avez sans doute dû nous voir à la télé, puisqu'on a fait pas mal d'actions qui ont été reprises en France. Alors, l'IAS a souhaité créer une conférence beaucoup plus médicale, et je dirais même purement médicale. Pourquoi ? Parce qu'il existait déjà une conférence médicale aux États-Unis qui s'appelle la CROI, mais qui est une conférence purement américaine, dans laquelle certains Français et certains Européens viennent présenter des résultats, mais finalement qui s'occupe peu de questions du Sud et peu d'autres recherches, par exemple celle de l'Asie. Et donc l'idée de l'IAS, c'était de faire une conférence ouverte à l'ensemble du monde. Et la première chose qui était frappante quand on est arrivé à la conférence, c'était d'une part que, évidemment, il y avait beaucoup de présentations de chercheurs des pays du Sud, mais contrairement à d'habitude où il y a des sessions spéciales pour ces chercheurs, on les met dans une session spéciale en général le soir en fin de conférence, là les sessions étaient construites autour de grands thèmes, par exemple la prévention, par exemple la transmission de virus, et les présentations alternées, chercheurs du Nord, chercheurs du Sud. Ça, c'est un des traits marquants de la conférence. Le deuxième trait marquant et qui nous a beaucoup étonnés, c'est également les questions de prévention. C'est-à-dire que cette conférence a été presque entièrement consacrée, quand je dis entièrement, une part importante consacrée à des résultats de recherche en prévention. Attention, quand je parle de recherche en prévention, il ne s'agit pas de recherche en sciences sociales, mais de recherche scientifique sur l'efficacité de tel ou tel mode de prévention. Par exemple, des prophylaxies pré-exposition, comme le tenofovir et des microbicides, mais également une nouvelle technique dont on a parlé, qui serait la circoncision et qui permettrait, selon une étude de l'ANRS faite en Afrique du Sud, de réduire de 60% la transmission. Des femmes vers les hommes.
Ce
n'est pas une nouvelle technique. Cela dit, il était intéressant
c'est une nouvelle information.
De l'évaluer et ça a donné lieu à de nombreuses polémiques, une grande... je dirais engueulade ou une petite émotion entre les Américains qui ont aussi des études mais qui vont publier les résultats plus tard. Et ce qui était assez amusant au cours de cette présentation de ces résultats, c'est que pour une fois, les Américains ne souhaitaient pas qu'on mette en application tout de suite les résultats, mais expliquaient qu'il fallait faire des études supplémentaires, alors que d'habitude, quand ils présentent leurs résultats, ça invalide le résultat des autres. Cela dit, il faut faire très attention. Effectivement, des études supplémentaires doivent être faites et il ne faudrait pas que les gens pensent que là, aujourd'hui, le fait d'être circoncis protège d'une infection à VIH. C'est beaucoup plus compliqué que ça et on y reviendra.
Il faut toujours utiliser les capotes,
qu'on soit circoncis ou pas. Et c'est des outils de prévention épidémiologique. Ça vise à réduire les contaminations à l'échelle mondiale. Ça n'a aucun sens à l'échelle personnelle.
À l'échelle individuelle,
non,
en fait.
Mais on en reparlera.
Donc les questions de prévention ont été largement abordées,
largement.
Mais aussi sur les questions sur la surinfection. C'est ça.
Voilà, alors ce qui était assez ravissant pour nous, c'est d'arriver le premier jour en conférence plénière. En fait, ces réunions sont organisées le matin, il y a une grande conférence plénière auquel tout le monde va, et puis l'après-midi, ça se divise en plusieurs conférences parallèles. Et les conférences plénières, les présentations plénières, c'est vraiment le compte-rendu de tout ce qu'on sait sur un sujet, en général fait par des distingués scientifiques. Et alors là, il y avait une conférence consacrée à la diversité du virus, et qu'on a appelé, nous, Retour sur la surinfection, dans une chronique que nous avons publiée sur le site
internet.
Alors, donc, une distinguée américaine scientifique, Francis McChan.
Il faut quand même préciser ce qu'est. Si tu peux le faire en quelques mots, sur la surinfection, en fait. Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors, la surinfection, en fait, c'est le fait de, quand on est déjà infecté, mm-hmm. être mis en présence d'un autre virus, du VIH, soit d'une souche différente ou pas légère, et que ce virus vienne aussi vous infecter, et ça peut donner, comme je vais l'expliquer, des virus recombinants. Voilà. Donc l'américaine Francis McChan.
Et les résistances au traitement en plus.
Résistances au traitement. Mm-hmm. Je dois l'expliquer dans ma chronique de cette partie-là est beaucoup plus rédigée. Voilà. Donc l'américaine Francis McChan a présenté un travail du programme épidémiologique moléculaire mondial, soutenu par de nombreuses institutions américaines, européennes et internationales. Absolument tout le monde participe à ce genre de recherche. Il y a une énorme base de données et qui est vraiment très intéressante d'un point de vue scientifique. L'objet de ce programme est de recenser et de mesurer l'évolution du VIH 1 et 2 sur l'ensemble de la planète.
Donc, il y a deux types de virus.
Donc aujourd'hui, il y a plus de 40 millions d'individus qui sont infectés dans le monde, soit par le VIH 1, soit par le VIH 2. Mm-hmm. Le VIH 2 représentant un nombre beaucoup moins important de contaminés par rapport au VIH 1, et se retrouvant essentiellement en Afrique. Alors le VIH1, il comporte trois sous-types, M, N et O. Le sous-type M, lui-même, comporte plus de 9 sous-types. Mmh. Et au gré des mutations, de nouveaux types apparaissent, créant ainsi de ce qu'on appelle des virus recombinants. Lorsque deux virus sont présents, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, chaque nouveau virus produit peut être le résultat de 7 à 30 recombinaisons entre des brins initiaux d'ARN du virus. Vous voyez l'étendue de la possibilité de recombinaison de virus. C'est ainsi qu'au fil des années, plus de 21 formes de virus recombinants, dont certains sont aujourd'hui devenus majoritaires dans certaines régions du monde, par exemple la Thaïlande et la Russie, ont été recensées. Évidemment, cette diversité de types de VIH ne va pas sans poser des questions quant au plan des traitements. Est-ce qu'ils vont être efficaces sur les nouveaux sous-types et sur des questions de prévention? Alors, quels sont les deux problèmes majoritaires? Sur le plan épidémiologique, évidemment, c'est ces recombinaisons et ces virus recombinants qui circulent modifient fortement la répartition et la diversité du nombre de sous-types de virus. Mmh. C'est-à-dire qu'on est devant une étendue et une diversité qu'on n'a jamais connue, et ça donne d'ailleurs de ravissants petits tableaux et des arbres phylogénétiques, mais qui font assez peur. Sur le plan prophylactique, maintenant, ça pose quel problème? Ça inquiète les chercheurs, et puis ça nous inquiète aussi, nous, beaucoup, parce que quand on a plusieurs ou des dizaines de sous-types différents, est-ce qu'on va être capable de produire un vaccin qui va être efficace sur l'ensemble de ces sous-types? Et du coup, ça complique encore la recherche vaccinale.
Mais ça complique aussi la recherche sur les traitements.
La recherche sur les traitements.
C'est pas seulement sur les vaccins.
Pour l'instant, les sous-types, enfin les traitements, sont en général efficaces sur les sous-types, les recombinants qui circulent. Il peut arriver parfois, comme pour un sous-type donné, mais qui ne circule pas forcément, c'est-à-dire qui reste sur une personne qui n'a pas été transmis, que les traitements soient moins efficaces. D'autre part, il n'est pas exclu que les personnes atteintes de souches multiples et recombinantes puissent transmettre des recombinaisons de souches différentes, rendant encore plus complexe le schéma de transmission. Ça devient un truc un peu dingue. Et enfin, surtout, il existe de nombreuses preuves que des personnes ayant des souches multiples ont une charge virale plus élevée et progressent plus rapidement vers la maladie. c'est le fameux cas de New York dont on a parlé pas mal dans la presse, qui en fait est beaucoup plus compliqué que ça et qui s'avère être probablement pas une histoire de virus recombinant ou de surcontamination. Mais en tout cas, il y a ce risque-là. Le risque, c'est que se développent des clusters, c'est-à-dire des endroits dans lesquels apparaîtrait un virus plus virulent, sur lesquels les traitements marcheraient moins résistants. Et c'est une question qu'on avait abordée en juin dernier et en juillet au cours de deux répits, une qu'on a faite à Paris et l'autre qu'on a faite à Marseille.
Sur les répits, je rappelle, c'est les réunions publiques d'information qui sont organisées par ACT-UP tous les deux mois à peu près.
Oui.
Je te laisse continuer.
Et qui s'appelait « Surinfection, une deuxième chance de mourir plus vite ». Si vous êtes intéressé par avoir le compte-rendu de ces réunions, qui regroupent pas mal d'informations scientifiques assez pointues, mais accessibles pour autant, vous pouvez aller sur le site parce qu'on publie régulièrement les comptes-rendus des répits.
Alors, je précise sur le site, il s'agit du site d'ACT-UP Paris, dont l'adresse est www.actupparis.org. Donc vous avez une rubrique répit.
Par ailleurs, juste pour finir, à chaque fois qu'on va à une conférence, on essaye de publier des chroniques journalières. Et donc vous avez non seulement celle de la conférence de Rio, vous avez celle de la Head Vaccine qui a eu lieu en septembre 2005,
à laquelle nous étions présents, enfin on était présents,
voilà,
également.
Et peut-être si on arrive à être présent, vous aurez aussi les chroniques en novembre pour la conférence européenne sur la pathogenèse du virus également.
Qui se déroule où ?
Elle se déroule en Angleterre.
En Angleterre. Donc là, il y a donc effectivement une nouvelle actualité. On aura probablement l'occasion d'en reparler d'ici là, donc peut-être l'émission de fin novembre.
Et en octobre, on espère en tout cas faire un point sur les vaccins, justement, avec Hugues qui était à la conférence de Montréal.
Montréal, voilà. Donc Head Vaccine, on parlait à l'instant.